Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Contrebande s'appelle l'exposition. On est au quatrième étage de la bibliothèque municipale de Lyon. Je suis en train de faire le tour avec le curateur, celui qui a organisé l'exposition. Coup de pièce en fait qui vous appartenait. Qui êtes-vous, Simon ?
J'ai un parcours en anthropologie musicale à l'université. J'ai plus ou moins bifurqué à la suite de mes études et je me suis engagé dans diverses sortes de projets culturels, dont une web radio musicale que j'ai quitté au bout de 3 ans. Et puis je me suis après investi plutôt dans un magasin de disques. Et moi, je suis rentré dans ce magasin de disques par en gros la gestion de projets éditoriaux, qui était de faire des compilations, de la réédition de musique oubliée ou disque rare. Bref, et dans toutes ces recherches que je pouvais faire sur ce qui se passait autour de moi, parce que c'est ça aussi qui nous anime dans ces projets-là, des choses qui sont soit associées à la région, soit à la France, j'avais découvert, je vous passe un petit peu les détails, mais l'existence d'une scène assez riche en Auvergne-Rhône-Alpes, mais en fait qui était aussi bien plus vaste, enfin connectée à un réseau beaucoup plus large. Quoi qu'il en soit, il y avait des acteurs assez intéressants en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à Grenoble et à Lyon. J'ai eu l'idée de monter ce projet-là, qui me semblait être suffisamment pertinent pour faire l'objet d'une subvention et d'être considéré comme un véritable objet patrimonial, ce qui n'avait pas du tout été le cas. Et donc cette exposition, en fait, elle parle d'une scène musicale qui a existé bien au-delà de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui a été assez présente et assez pertinente dans la région, qui est en fait une contre-culture musicale qui arrive au début des années 80, à la suite des grands chamboulements esthétiques qu'il y a eu dans les années 70 par toute une série de mouvements musicaux comme le punk, la musique industrielle ou la no wave, du coup qui émerge et qui est portée à la fois par un précepte qui est celui du DIY, du faire soi-même, de faire les choses soi-même, et puis qui est aussi facilité par toute une série de petites révolutions technologiques, principalement la cassette audio qui a été son support principal de diffusion. Bien d'autres aussi comme d'autres...
L'enregistreur 4 pistes, vous en avez un exemplaire ici d'ailleurs qui vous appartient, Simon de Barbieux. Vous avez collectionné depuis longtemps des objets de ce type ?
Alors ça, c'est pas vraiment une collection parce que je l'utilise plus ou moins. Après, les cassettes, c'est des objets qui sont très très rares aujourd'hui, très très durs à trouver, parce que c'était fait en toute petite quantité.
Vous voulez dire les cassettes produites par ces groupes, ouais. Ouais, c'est ça, j'imagine qu'ils sont difficiles à trouver.
Parce que parfois c'était limité au nombre d'exemplaires qui étaient commandés, donc ça pouvait aller de 10 à 200. Enfin, j'entends, c'était vraiment de la fabrication qui était très artisanale, donc c'est assez difficile à trouver, ça se vend à des prix exorbitants aujourd'hui sur le marché. Il y a eu pas mal de passionnés qui, à partir du milieu des années 2000, ont commencé à monter des blogs, en fait, c'était la grande mode du blog, et en fait à mettre à disposition ces enregistrement.
Être très précis, la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, avait proposé de retrouver ces supports qui étaient des supports cassettes qui étaient en voie de disparition pour pouvoir les numériser et conserver cette mémoire. Est-ce que c'est bien ça ?
En fait, il y a une subvention qui est associée à un projet patrimonial à la DRAC qui s'appelle Mémoire du 20e et 21e siècle en Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, la DRAC alloue des fonds pour des projets qui sont associés à conserver ces mémoires-là. Et en réalité, c'était pas tellement constitué un fonds d'archives physique parce que c'est trop compliqué de retrouver ces objets-là ou ce serait trop coûteux. Mais l'idée, c'était plutôt d'avoir un projet. Et puis, ce qui intéresse la DRAC aussi et la région, c'est plutôt de tout l'aspect médiation, quoi. Mais ce qui est important pour eux, c'est qu'il y ait des événements qui puissent permettre au public d'être amené à connaître ce qui s'est passé dans la région. Donc, je suis en train effectivement de constituer un fonds d'archives numériques parce que à travers ce projet, j'ai récupéré des centaines et des centaines de cassettes. La plupart ne m'appartiennent pas, hein, mais je les numérise quand même. Et donc, je suis en train de faire un fonds d'archives numériques pour la bibliothèque municipale de Lyon et le fonds local. Après, voilà, l'idée, c'était plutôt de produire toute une série d'événements, entre guillemets, autour de ces questions-là. Donc, il y a eu 2 émissions de radio qui ont été produites par mes soins et diffusées sur l'île radio. Il y a eu cette exposition. Il y a eu une interview, petite publication dans Musique Journal, petit quotidien, enfin, un petit magazine musical qui est associé à Audimat et qui est tenu par Étienne Menu. Et il va y avoir une compilation qui va être faite et qui va être publiée avec le magasin de disques dans lequel je travaille actuellement. Donc c'était vraiment ça qui intéressait la DRAC et du coup...
L'exposition est également un beau projet pour justement parler de ces époques. On disait que quand on arrive au quatrième étage, hein, vous prenez l'ascenseur de la bibliothèque, hein, comme nous ici, vous arrivez, vous êtes déjà accompagné par un fond sonore, vous avez décidé de mettre une bande son. C'est le seul endroit d'ailleurs vers l'ascenseur où on a un fond sonore. On a des casques, en revanche, bien sûr, pour pouvoir s'isoler et écouter. Et on a des visuels où on voit des gens qui ont fait peut-être partie de radio ou qui ont enregistré eux-mêmes donc derrière des platines. On est baigné finalement dans cette culture. Tout est rouge et noir. Est-ce que c'était un code couleur qui était en vogue à l'époque ? Dimension très militante, finalement, aussi, de ces mouvements.
D'abord, le fond musical, effectivement, c'était important de le mettre... que la musique soit présente, c'était très important, parce que le prétexte premier de toute cette scène-là, c'est de la musique, d'abord et avant tout. Et effectivement, après, il y a énormément de supports imprimés qui ont existé en parallèle à ça, tout simplement parce que c'est le début des années 80, il n'y a pas Internet, le digital est encore assez balbutiement. Donc, en fait, il y a encore énormément de choses qui circulent sur format papier, l'essentiel circule sur format papier. Et dans la lignée d'autres mouvements artistiques d'avant-garde qui datent dans les années 80, qui datent de 20 ans, qui est par exemple Fluxus, l'un des principes c'était plus vous produisez, plus vous diffusez, plus votre projet va être connu, quoi.
L'art c'est la vie, comme dirait Ben.
Exactement. Donc effectivement, du coup, il y a eu une pléthore de choses qui ont été produites à cette époque-là, et il y avait effectivement des archivistes rigoureux qui ont gardé beaucoup de choses. Ensuite, pour la question de toute l'ambiance de l'exposition, c'est quelque chose qui a été vraiment fait main dans la main avec un cabinet de graphistes qui s'appelle Service Local, et avec lequel on a vraiment vraiment travaillé ensemble. Alors c'est vraiment eux qui ont pensé la scénographie, ils avaient bien plus l'habitude que moi de faire ça. Donc l'idée c'était d'avoir une proposition qui était suffisamment pertinente, voyante, choc d'une certaine manière, pour que ça laisse pas les gens indifférents.
Il y a un côté constructiviste russe.
Certainement, c'est vrai qu'il y avait beaucoup ces couleurs-là dans le constructivisme. Ouais.
Le blanc, le rouge, le noir, les lignes qu'on retrouve ici.
Bah, c'était l'idée aussi de jouer avec des contrastes forts, et puis c'est aussi que toute l'esthétique qui accompagnait en fait aussi cette scène musicale, elles avaient, on pourrait dire qu'elles allaient puiser aussi un petit peu là-dedans, à savoir que ça mobilisait énormément d'imagerie qui était associée soit au conflit armé, soit au fascisme, non pas parce que les acteurs étaient nécessairement des fascistes, mais tout simplement parce que l'idée c'était de choquer les gens. Le parti pris a aussi été celui-ci.
Le titre Contrebande, ça nous renvoie finalement aussi à des années qui sont des années militantes.
Cette scène-là aussi, encore une fois, au début des années 80, il faut se rendre compte que c'est une forme de désert culturel, que vous n'avez pas Google, donc vous pouvez pas aller chercher des propositions culturelles complètement obscures aussi facilement que ça, et que vraiment c'est un vrai engagement du quotidien de pouvoir avoir accès à des propositions culturelles alternatives.
On refuse le mainstream finalement pour rentrer aussi dans une forme de dialogue. On voit notamment tout un mur d'échanges de correspondances. Avant la naissance d'Internet, finalement on écrivait beaucoup. Les visuels traversaient l'Europe.
Pas Internet, le téléphone coûte encore très cher, à la différence d'aujourd'hui aussi. Meilleur moyen pour communiquer, c'est effectivement le service postal. Et puis aussi ça, donc effectivement il y a eu des correspondances qui étaient extrêmement fleuries, comme on peut le voir là sur le mur. Il faut savoir que ça s'inscrit aussi. Alors, deux choses. La première, c'est qu'il n'y avait pas que des enveloppes qui circulaient, mais il y avait beaucoup de cassettes aussi. C'est l'avantage de ce format-là. C'était que ça pouvait se glisser très facilement dans une enveloppe. Et vous pouvez vraiment les envoyer loin. C'est-à-dire qu'il y avait un format qui s'appelait l'aérogramme, qui a cessé d'exister en 2002, mais qui a été créé dans les années 60. Et vous pouviez envoyer pour une somme ridicule une lettre au Brésil, au Japon, alors qu'aujourd'hui, ça vous coûte extrêmement cher. La deuxième chose, c'est que, cette pratique-là, elle s'inscrit dans la continuité d'autres pratiques qui sont nées dans les années 60. Encore une fois, une qui est parallèle au mouvement Fluxus, forme d'art qui s'appelle le mail art. L'idée d'utiliser le service postal comme diffuser des créations en opposition à tout le système des galeries qui existait alors, de remettre en question le statut de l'art et de l'artiste et de l'œuvre aussi. Et puis et donc du coup il y avait tout un réseau qui était préexistant à cette scène-là, de mails artistes qui s'envoyaient des listes de contacts, qui correspondaient entre eux, qui faisaient des projets comme ça par le biais de la poste. Et en fait, beaucoup de ces acteurs ont utilisé ces réseaux qui étaient déjà préexistants pour pouvoir recréer leur propre réseau d'une certaine forme de sous-partie encore du mail art, du coup, qui ajoutait toute la dimension sonore.
Est-ce que des groupes de notre région, là on voit Saint-Étienne, Lyon, Clermont-Ferrand, Bourg-en-Bresse, Annecy, Grenoble, Annonay, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, est-ce que certains de ces groupes ont survécu à cette époque ?
Ouais, carrément. Parenthèse, je précise juste aussi que l'avantage du service postal, c'est que ça permettait en fait à des gens qui étaient isolés géographiquement de faire partie de cette scène-là. Du coup, c'est une scène qui est décentralisée mais qui est structurée en réseau. Et en gros, il n'y a pas Paris ou Londres ou New York qui dirige un petit peu l'essentiel du mouvement, mais qu'en fait c'est tout aussi bien par des individus qui sont à Annonay ou à Bourg-en-Bresse. Si étant, oui, il y a effectivement des gens qui ont survécu à ça, il y en a qui font encore de la musique. Je pense à Lyon, vous avez par exemple In Aeternam Valley, Laurent Pro ou Klim Perret, Christophe Pechana. À Bourg-en-Bresse, Difforme qui fait encore aussi de la musique. D'autres, Alain Bassot de Annecy aussi qui en fait encore, Lieutenant Caramel évidemment, qui fait encore aussi de la musique. Voilà, donc effectivement, il y en a qui ont survécu à ça, qui sont restés très fidèles à leur pratique de l'époque, qui continuent de fonctionner.
Est-ce que ce sont aussi des collectionneurs ?
Non, pas toujours, non. Non, vous en avez quelques-uns qui ont principalement gardé leurs archives. Il y en a beaucoup qui avaient aucun intérêt dans le fait de garder des choses de cette époque-là. Il n'y avait aucun intérêt pour ça, tout simplement.
Donc les collectionneurs ne sont pas toujours les faiseurs.
Souvent, c'est bien le contraire. Ouais. Et c'est bien le problème.
Donc vous disiez en fait que vous vous étiez rapproché finalement de collectionneurs. Est-ce que c'est une exposition qui s'adresse aussi un peu aux nostalgiques ?
Oui, d'une certaine manière. Alors moi, on pourrait dire que c'est étonnant puisque je suis né trop tard pour avoir connu cette scène. scène-là. Donc, d'une certaine manière, c'est la nostalgie d'une époque que j'ai pas connue. Je pense que, en fait, il y a d'autres choses qui se jouent à ce niveau-là. Alors, déjà, en fait, les années 60, 70, 80, c'est des années qui ont été, 90 aussi, qui ont été extrêmement importantes dans l'histoire de la musique du 20e siècle et du 21e. Elles ont déterminé énormément de choses. Je pense à aujourd'hui, tout simplement, la musique pop d'aujourd'hui, c'est le rap. Et le rap, c'est né dans les années 80, dans les années 90, entre autres formes urbaines, formes de culture urbaine. Ça a été des décennies qui ont été très pertinentes, et les années 80 particulièrement.
On dit que la cassette est en train de revenir.
Oui, elle revient plus ou moins, mais c'est plutôt dans les manières de faire. Je veux dire, aujourd'hui, en fait...
C'est évidemment marginal.
On est assisté pour beaucoup de choses. À l'époque, voilà, le DIY, c'était un vrai engagement militant. Aujourd'hui, le DIY, voilà, vous mettez sur YouTube, vous tapez macramé DIY, et puis vous avez 50 000 vidéos qui sortent. Ça a plutôt la même charge, à mon sens. Donc c'était important, je pense, de le remettre en avant.
On est devant un mur, aussi, dans la section 3. C'est tout un univers aussi graphique qu'on évoque. C'est-à-dire la reprographie, on a parlé un petit peu tout à l'heure, des méthodes un peu, comment on pourrait dire, un peu artisanales. Hein. On faisait tout à la maison, quoi, avec des objets et des petites machines à écrire, sur du papier de base. Et parfois, on voit bien que certains éléments de votre collection, ou de ce que vous montrez ici dans l'exposition, c'est très fragile. Parce qu'il y a aussi une pochette en plastique, parce que tellement le papier, en fait, était de mauvaise qualité.
Après, pour ce qui est affiché là, effectivement, donc c'est des supports imprimés, c'est du papier. Le papier, effectivement, c'est fragile si c'est mal conservé, évidemment. Du coup, une esthétique, oui, parce qu'il y a une autre forme de révolution technologique qui se démocratise à la fin des années 70, c'est la photocopieuse. Mmh. Et du coup, ça permet, en fait, d'imprimer, de reproduire à très faible coût des contenus éditoriaux.
Ça faisait penser aux stencils quand on était enfant, c'est-à-dire les machines qu'utilisaient nos maîtresses, en fait, hein, nos instituteurs, avec cette odeur d'alcool. Et je suppose, en fait, que certains documents ont été faits de cette manière-là.
L'essentiel, là, c'est quand même la photocopieuse. Vous avez effectivement d'autres formes d'impression que l'offset ou la sérigraphie d'ailleurs, mais c'était principalement fait à la photocopieuse. Et puis surtout, en fait, ce qui était très important là-dedans, c'était que ça permettait tout aussi bien que la musique qui était diffusée d'informer sur ce qui se passait dans le réseau et puis de l'étendre plus encore. C'est-à-dire que si quelqu'un pouvait être amené à tomber sur un fanzine, il y avait toujours des listes de contacts qui accompagnaient ces fanzines-là, qui permettaient à ces gens-là de pouvoir entrer en réseau avec les acteurs de la scène.
Alors on voit beaucoup de collages, de photomontages, de dessins, de graphismes, de détournements d'images, d'associations d'images et de mots qui font penser à ce qu'on disait tout à l'heure au constructivisme russe. Ça me rappelle des pochettes de disques, alors des Sex Pistols, mais aussi d'autres, etc.
Oui, je pense que c'est parfaitement vrai dans la mesure où à la fois ces mouvements, encore une fois, d'avant-garde dont on parle aussi un petit peu ici, ils ont été très très importants tout au long de la décennie. Ils le sont encore aujourd'hui. Hein. C'est encore des esthétiques qui influencent ou des techniques qui influencent énormément les productions actuelles. Et puis d'ailleurs, vous parlez des pochettes des Sex Pistols, ils procèdent exactement de la même manière. Et voilà, encore une fois, il n'y a pas d'ordinateur, donc on fait tout avec un ciseau et un tube de colle et puis des vieux magazines et puis une photocopieuse. Donc effectivement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que cette esthétique, elle est très forte, elle est très marquée et elle a influencé, je pense, beaucoup plus que ce qu'on ne se représente, elle est encore très présente aujourd'hui, c'était ça l'intérêt pour nous deux.
On se retrouve dans la dernière section, la section 5, où il y a des images vidéo, mais pas seulement, il y a quelques objets aussi qu'on retrouve, et notamment un objet très étrange, un slip.
Ouais, c'était l'histoire de faire une petite blague aussi, mais c'était voilà, un des acteurs de cette scène-là qui a absolument tout gardé dans ses archives, dont ce slip-là, et tout support et prétexte à la création, donc un slip aussi, et du coup c'est un slip qui a été sérigraphié pour le premier concert de Nonono au 102, si je ne dis pas de qui était vendu lors du concert.
C'est au lieu du célèbre t-shirt qu'on achète aujourd'hui, il y avait des slips à l'époque. Ça se fait plus tellement, hein, la vente de slips comme goodies.
Ce qu'on appelle le merchandising peut avoir tendance à disparaître.
Vous disiez tout à l'heure que ce type de scène s'accompagnait d'une dimension performative, un peu excessive parfois. Là, on voit un personnage qui se roule par terre.
Oui, donc cette scène musicale, c'était plutôt en réalité des musiques qui étaient produites à la maison, qui n'avaient pas vraiment vocation à être amenées sur scène. Mais encore une fois, dans les influences de cette scène-là, il y a évidemment les groupes de musique industrielle des années 70 qui eux-mêmes sont très très influencés par Fluxus. Et dans le mouvement artistique Fluxus, le happening, la performance est une dimension qui est extrêmement importante. Donc effectivement il y a beaucoup de mise en scène, il y a beaucoup de costumes, il y a beaucoup de vidéos aussi parfois du cinéma expérimental qui accompagne les performances. Donc,
on sent une très grande liberté de création. Qu'est-ce que ça fait du bien ? J'ai l'impression en fait qu'à notre époque on est très auto-censuré. Qu'est-ce que vous en pensez vous en tant qu'anthropologue de la musique ?
J'ai l'impression qu'effectivement ce qui était transgressif à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. La transgression elle se fait différemment. Effectivement les mentalités évoluent, la morale avec. Est-ce que c'est plus difficile d'être transgressif aujourd'hui, je sais pas trop. C'est une vaste question. Mais je pense que ça s'analyse pas de la même manière. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais effectivement, à l'époque, trader une paire de fesses ou une entrejambe, c'était quelque chose de très transgressif. Le faire sur scène aussi, aujourd'hui, c'est des choses qu'on accepte beaucoup moins.
Effectivement, des entrejambes féminins, visage, par exemple, ici avec White House, un visage féminin avec des doigts dans sa bouche. Enfin, je veux dire, il y a des visuels qui pourraient être, par exemple, choquants pour des féministes. Enfin, à l'heure du wokisme et de la cancel culture, bon, très clairement, c'était pas leur problème à cette époque.
Ouais, carrément. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, cette scène-là, elle est quand même plutôt masculine. Elle est plutôt masculine, c'est vrai. Le rock français dans les années 80, il est profondément machiste.
Ouais, en même temps, derrière vous, il y a une très jolie femme, en fait, qui chante.
Sylvie Loquet, de Denier du Culte, effectivement. Ouais. Mais c'est pour ça, nous, on a essayé aussi, autant qu'on le pouvait, de mettre en avant les femmes, parce qu'il y en a eu. Il y a eu aussi Hélène Olivo, imprimée en très grand, qui a été une des fondatrices de SWK, qui était une radio libre, radio associative à Saint-Etienne. Essayer autant que faire se peut de mettre en avant les femmes là-dedans, mais malheureusement, c'est vrai que c'était plutôt une scène qui était masculine, et d'une manière générale, la musique était plutôt une affaire d'hommes aussi. Et puis surtout, ces courants-là qui dérivent d'une manière très très générale, je suis très schématique, hein, mais du rock. Le rock, c'était un gros truc de macho.
De macho.
Et ça, faut pas l'oublier quand même, quoi. Et je pense que ça l'est d'ailleurs toujours encore.
L'exposition, c'est jusqu'à quand ?
L'exposition, elle est jusqu'au 19 août.
Contrebande, et c'est au 4e étage de la bibliothèque municipale. Et en faire un catalogue d'expo ou un livre ?
Alors, c'est le projet. On aimerait bien essayer de pouvoir la proposer dans un plus grand espace, tout simplement pour avoir plus de place. Et effectivement, l'idée, ce serait après de pouvoir faire un catalogue d'exposition aussi en pouvant étendre le focus sur la scène française.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.